ce venez déjeuner de Jésus aux disciples après une pêche miraculeuse, ça sent bon les vacances, ça sent bon la baignade, le barbecue entre amis au bord du lac de Tibériade, avec le déconfinement. Ce soir à minuit, cette scène d'évangile a de quoi alimenter un peu nos fantasmes d'évasion, de rencontre. Bah, attention quand même, de respecter les consignes. Bon, mais au risque de jouer les rabat-joie de service, je vous invite à laisser un peu là cette image sympathique, certes, mais assez éloignée des enjeux de la rencontre du lac de Tibériade. Les disciples, ce matin-là, ont toutes les raisons du monde d'être déprimés. J'ai compté, ils ne sont pas 12, enfin, ils ne sont pas 11, Judas, on sait. Ils sont seulement 7, c'est carrément la débâcle dans les rangs apostoliques. Ils ont bien découvert le tombeau vide, matin de Pâques, ils ont même vu le Seigneur. Mais ce retour à la pêche, qui est initié par le plus proche, l'un des plus proches disciples de Jésus, Pierre, ressemble quand même à un aveu d'échec. Le filet désespérément vide au bout d'une nuit de travail de ces marins fatigués, désabusés, ça en dit long quand même sur le climat très pesant de ce lendemain de Pâques. Et ce serait aller, à mon sens, un peu vite en besogne que de conclure que, à l'inverse, il suffit de rencontrer le ressuscité pour qu'aussitôt nos filets soient pleins, pleins à craquer de bénédictions en tout genre. Nos églises pleines de chrétiens réveillés, nos campagnes d'évangélisation pleines de convertis, nos missions riches et prospères. Et à l'inverse, si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas, alors on va se battre la coulpe en confessant que nous sommes de mauvais croyants, que nous avons mal rencontré le ressuscité, que nous sommes des chrétiens tièdes, craintifs, partagés, que nous sommes en panne de vitalité. La culpabilité, n'a jamais été un moteur de réveil de la foi. Bien au contraire, elle tire notre barque vers le fond. La culpabilité ne sait produire qu'une chose, la culpabilité. Donc, revenons à ce récit de la pêche miraculeuse, ce lendemain de Pâques, parce qu'il est très riche d'enseignements. Il faut, pour cela, retrouver un petit peu la symbolique du récit dans laquelle l'évangile de Jean, nous invite à entrer. Il y a tout d'abord la symbolique de la mer. C'est l'abîme. L'abîme où, d'après l'Ancien Testament, sont plongées toutes les forces du mal, l'épreuve, la mort. Les mots du prophète Ésaïe, par exemple, le disent avec une intensité extraordinaire. N'est-ce pas toi qui as dévasté la mer? Les eaux de l'abîme gigantesque qui a fait du fond de la mer un chemin pour que passent les rachetés. Vous trouverez ça au chapitre 51 d'Ésaïe. Le poisson, lui, tout au contraire de l'abîme, représente le bonheur, l'abondance, la vie, la joie d'un repas partagé. Et le poisson a ceci de particulier. Le poisson est une créature qui trouve la force de vivre là où précisément personne ne veut vivre, dans l'abîme, le lieu que tout le monde fuit, comme on fuit la mort. Et c'est pas étonnant si les premiers chrétiens aient choisi le symbole du poisson comme signe identitaire, le fameux ictus, poisson en grec, dont vous connaissez certainement la signification cachée. Chaque lettre du mot ictus forme ce qu'on appelle un acrostiche, chaque lettre renvoyant à un mot pour former une phrase finale qui veut dire « Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur ». Le poisson de l'abîme devient le symbole majeur de l'Église, l'Église persécutée, des premiers temps, un signe vivant d'appartenance à celui qui vit jusque dans la mort, le ressuscité. Mais ce jour-là, ce matin-là, le lac de Tibériade est désespérément vide. Les disciples n'y trouvent rien, pas le moindre signe de vie. C'est la rencontre avec le Christ qui va tout changer pour eux. À son habitude, Jésus ne va pas imposer sa présence aux disciples. Il va subtilement les inviter à le découvrir, lui. Comme d'habitude, il va leur poser une question. Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Alors, Jésus, en bon psychologue, cherche-t-il avec cette question à aider les disciples à verbaliser leur problème, qu'ils mettent des mots sur leur échec, ça ira mieux après? Leur vie est devenue stérile, improductive, sans but, désespérante. Parlons-en. C'est une possibilité. Parler fait, en règle générale, beaucoup de bien. Mais il est possible qu'il n'y ait pas d'intention cachée dans la question de Jésus. Jésus a peut-être tout simplement faim. Et il leur demande du poisson à manger. C'est ici qu'il va se passer quelque chose de très étonnant, de fort. Les disciples sont épuisés, on l'a vu, bredouilles, mais ils acceptent, sans rechigner, de repartir à la pêche, sans même être celui qui leur demande à manger. Jésus leur apparaît, là, à cet instant, comme un parfait inconnu. Par l'expression de son besoin, de sa faim, Jésus va réanimer, va ressusciter chez les disciples quelque chose qui était mort, leur désir de vivre, qui se manifeste par un désir de vivre pour autre que soi, un désir de découvrir le sens de sa propre existence dans le service de celui qui est là et qui tend les mains. Ils vont repartir à la pêche, non plus dans le but de satisfaire leurs besoins personnels, celui de marin-pêcheur, mais pour offrir le fruit de leur travail à un inconnu, un autre, celui qui est là. La quête du bonheur pour soi a quelque chose de désespérant. Cette quête est une maîtresse exigeante au désir insatiable, souvent pathologique, parce qu'elle-même est prisonnière d'autres maîtres. Mais la recherche du bonheur pour autre que soi est toujours une expérience édifiante, simple et joyeuse. Au sein des situations les plus sombres, où la violence, l'injustice, la peur semblent tenir la main, dominer, eh bien, il est possible de tendre une autre main, de poser un geste d'espérance, un geste fraternel, une éclaircie au cœur des ténèbres du grand abîme que peut être la vie pour nombre de nos contemporains aujourd'hui. Et voilà ce que peut être la vie chrétienne. Et à chaque fois, n'est-il pas vrai que nous avons osé, que nous avons posé ces gestes et ces paroles au cœur des ténèbres? Non seulement nous avons vu des visages s'éclairer, nous avons vu la souffrance soulagée, mais nous avons nous-mêmes pleinement ressenti et vécu ce bonheur. Y a-t-il plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Y a-t-il plus grande joie à participer, même modestement, à faire reculer les forces de mort qui pèsent sur la vie? Les personnels soignants en sont depuis 2 mois des exemples magnifiques. Ils ont été nos pêcheurs protecteurs. Fatigués, sans moyens, ils ont accepté de jeter pour nous à nouveau les filets de la protection sanitaire et des résultats sont là. Il faut saluer ces gestes fraternels. Venons-en à Pierre quelques instants. Pierre était nu. Cette nudité qui est toujours dans la Bible un symbole de faiblesse, de vulnérabilité, elle nous présente l'homme tel qu'il est devant Dieu. En prenant conscience que Jésus est là, Pierre s'habille. Il retrouve le courage de la dignité et il se jette à l'eau. La question est de savoir où va-t-il. Va-t-il directement à la rencontre de Jésus ou va-t-il aider les disciples de l'autre barque à tirer le filet qui est plein de poissons? Pierre est-il finalement, pour le dire autrement, à cet instant dans une célébration personnelle du Christ ou est-il dans un élan de solidarité avec ses collègues pêcheurs qui tirent leur filet? À ce stade du récit, Jean ne le précise pas. Il nous laisse en quelque sorte libres, chacun étant invité à remplir cette case vide, choisissant ce qu'il veut vivre entre ces deux missions fondatrices de l'Église, foi et solidarité, culte et entraide. Jésus, à la différence des autres récits de pêche miraculeuse dans l'évangile de Matthieu et Marc, ne fera pas ici de Pierre un pêcheur d'hommes. Pierre sera simplement renvoyé à la pêche pour nourrir Jésus qui a faim. Sœurs et frères, nous sommes appelés ce matin à retrouver ce chemin-là, le chemin du don gratuit pour celui ou celle qui est là. Donner à celui qui a faim, à celui qui n'a rien, quand celui qu'on ne connaît même pas, quand on est crevé, qu'on aurait besoin d'aller se coucher, de manger un morceau seul dans son coin ou entre amis, c'est très difficile à faire. Mais il y a tellement de joie à puiser dans cette expérience-là. Celui qui est là, qui n'a rien, qui dit « j'ai faim », c'est la figure même du Christ pour nous. Et quand nous reviendrons vers la plage, en tirant le lourd filet de la bénédiction, ce filet plein de vie, de joie, d'amour à partager, eh bien c'est lui, Jésus, en personne, qui nous accueillera. Et parce qu'avec Dieu, l'abondance devient toujours surabondance, vous l'avez vu, Jésus a déjà préparé le repas. Le barbecue entre amis est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à passer à table et recevoir de sa main le pain qui nourrit, le sourire de Dieu qui donne la foi. Vous voyez, quand nous avons le sentiment d'être utile à quelque chose dans nos vies, dans l'Église, d'être des sœurs responsables, engagées, eh bien le Christ nous invite à nous laisser servir, à nous laisser aimer, nous laisser accueillir, nous laisser nourrir, c'est ça la grâce. C'est même toute la gloire de la résurrection qui est dite ici. Nous sommes débordés par l'amour de Dieu. L'abîme, pour reprendre les mots d'Ésaïe, l'abîme est asséché. Les rachetés sortent de l'eau. Leur nudité est définitivement couverte. Ils sont en Christ. Il nous reste maintenant à tendre l'oreille. Tant de femmes et d'hommes ont faim aujourd'hui. Amen.